Bonjour, bienvenue et à cette grande conférence du Collège international de philosophie. Merci d'être venus si nombreux. Nous sommes donc très heureux et honorés d'accueillir Carlo Rovelli dans le cadre de ces grandes conférences organisées en partenariat avec la mairie du 4e qui met à disposition pour nous cette belle salle. Donc Carlo Rovelli, directeur de recherche au Centre de physique théorique de Marseille, une recrue de haut vol qui montre que la France sait aussi parfois accueillir des chercheurs de renommée internationale. Et il est un pilier de la physique contemporaine et même du paysage intellectuel contemporain à trois titres. D'abord, premièrement, c'est un véritable créateur en physique théorique, ce qui n'est pas si courant. Hein, il a cofondé avec Lise Molline et A.B. Echtekar la théorie de la gravité quantique à boucle. Mais son travail de théoricien est plus large que ça. Il a aussi proposé une interprétation, peut-être qu'il en sera question aujourd'hui, une interprétation relationnelle de la théorie quantique, élaborée avec Alain Cohn l'hypothèse du temps thermique. Et deuxièmement, c'est un pédagogue hors pair, de ses théories, mais pas seulement, comme en témoignent ces sept brèves leçons de physique, hein, qui a été un succès dans le monde entier. Et c'est un peu ce que le grand public découvre depuis quelques années, sa capacité de pédagogue de la physique. Et c'est enfin un troisième aspect sur lequel je veux insister, c'est aussi un philosophe très, très fin, hein, un philosophe comme l'ont été tous les grands physiciens dans la lignée de Einstein, tous les fondateurs de la physique quantique, c'est-à-dire vraiment un physicien qui sait utiliser la philosophie, qui nourrit la philosophie et qui utilise des arguments philosophiques, qui écrit je signale son très bel ouvrage sur Anaximandre, la naissance de la physique. Il a aussi une passion assez nette pour les atomistes de l'Antiquité. Et son ouvrage, donc l'ordre du temps, dont il va être question aujourd'hui lors de cette conférence, qu'il va sans doute nous présenter, est vraiment un grand livre, grâce notamment à cette capacité philosophique conceptuelle à dégager, à analyser les différents aspects du temps et la nécessité de les dépasser ou non, et éventuellement d'inventer de nouveaux concepts. Donc je lui laisse tout de suite parler de ça, de l'ordre du temps, qui est donc le titre de la conférence, comme le titre du livre. On a à peu près une heure de présentation de conférence, et ensuite nous aurons 35-40 minutes pour les questions, sachant qu'il faut quitter la salle à 8h15. Je laisse tout de suite la parole à Carlo Rovelli, en le remerciant encore de cette invitation, d'avoir accepté cette invitation.
Merci beaucoup. Je rentre pour cette introduction très gentille. Merci à vous tous pour être ici. Je vais parler moins qu'une heure et grosso modo, je vais suivre ce qu'il y a dans ce livre. Je vais parler du temps. Si vous me suivez, je vais vous amener dans un voyage vers le temps, peut-être ailleurs du temps et retour. Je vais commencer par l'idée du temps que nous avons plus instinctif. Je peux accrocher ça ici, par exemple. Voilà, ça c'est le temps. C'est une longue ligne. Oups. Se brise quelquefois. C'est pas assez long. Je n'ai pas eu le temps de l'accrocher. Et ça, c'est l'image intuitive que nous avons du temps. Une suite dans laquelle nous sommes dans un instant, ici. à la fin de la conférence, on sera là. Avant, on était ici. Hier, on était là. Et là, il y a l'année passée, on est né. Et là, très loin, il y a, je ne sais pas, le Moyen-Âge. Très, très loin encore, il y a le début de l'univers. Et le futur, ça va, je ne sais pas. Chaque moment, je peux le nommer, c'est l'heure. Les horloges nous donnent le temps et mesurent la distance entre des instants. D'accord ? Donc, je commence à parler ici, 45 minutes, j'aurai terminé, on serait là, tous les horloges vont indiquer 45 minutes qui sont passées. Et le temps est le même pour nous tous, nous sommes tous ensemble, tout l'univers est ensemble dans ce moment-là et va passer dans le moment suivant. Et évidemment, le passé est complètement différent du futur, profondément, parce que le passé s'est déjà passé, il est là, il a été, on sait grosso modo qu'est-ce que c'était dans le passé, on a plein d'informations sur le passé. On sait beaucoup moins sur le futur, on sait presque rien sur le futur, vert, pour décider. Passé, rien à faire, et plutôt c'est tout encore à jouer. Donc c'est profondément différent. Donc ça c'est le temps, c'est orienté, c'est unique, c'est global, c'est commun, c'est mesuré par nos horloges qui vont tous à la même vitesse, avec un passé différent du futur. Et tout ça est faux. Tout ce que j'ai dit jusque-là est faux. Est faux dans un sens strict, pas dans un sens... philosophique, compliqué ou quoi. La nature n'est pas faite comme ça. Et donc, ce que je veux faire dans les premières 20 minutes de cette conversation, c'est de vous raconter pourquoi tout ça est faux. Dans quel sens tout ça est faux. Donc, c'est pas faux dans le sens que c'est mauvais de le penser comme ça, mais c'est approximatif de le penser comme ça. Le temps pensé comme ça, c'est le temps de notre expérience qui est valable à notre échelle, à côté de nous, avec toutes les imprécisions de notre façon de voir le monde. Deux, qu'on étudie le temps mieux, qu'on étudie les horloges mieux, qu'on étudie la physique mieux, on voit que la structure du temps est complètement différente. Alors, la première partie de cette conversation est de voir qu'est-ce qu'il y a de faux. Et dans le livre, je vais assez en détail, mais je vais résumer ici trois arguments, trois faits de la nature qui nous font voir que pourquoi cette idée du temps n'est pas correcte à des différents niveaux. Et j'insiste de suite que ce sont des choses qu'on sait très bien, sur lesquelles le monde de la science est tout d'accord, qu'on a pensé, vérifié, discuté, et que ce sont des choses complètement établies. Donc la première chose qui est fausse, que j'ai dit, c'est que tous les horloges mesurent le même temps et vont à la même vitesse. Alors ça c'est faux de façon très simple. Si je prends une horloge, ça c'est une horloge, et j'en prends une autre, ici, oui, voilà. Et s'ils indiquent la même heure, c'est un fait vrai que si je mets un plus en haut et un plus en bas, j'attends un peu, 1, 2, 3, 4, et après je les remets ensemble, ils n'indiquent pas la même heure. Alors, la différence est très petite, donc avec des horloges de très grande qualité comme ces horloges-là, on ne voit pas la différence, mais seulement parce que ces horloges ne sont pas précises. Aujourd'hui, on a des horloges dans les laboratoires de physique qui ont une précision très très grande. Et avec ces horloges-là, on mesure la différence de la vitesse du temps à 40-50 centimes de différence. Donc littéralement, on prend une horloge, on le met sur la table, l'autre on le met par terre, on prend un peu, on le remet ensemble, et il n'indique pas le même temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a plus de temps en haut et moins de temps en bas. Plus proche de la Terre, il y a moins de temps. C'est quelque chose qu'on sait de façon théorique depuis presque un siècle, parce que c'est une des premières conséquences de la relativité générale d'Einstein, mais c'est quelque chose qu'on mesure depuis très peu, parce qu'on n'avait pas des horloges assez précises pour le vérifier. Et la première... La première grande vérification, celle qui a frappé beaucoup, c'était dans les années 80-90, quand on a monté le GPS, le système de navigation avec les satellites, parce que les Américains ont été les premiers. C'était l'armée américaine qui a commencé à monter ce système. Au début, c'était un système militaire. Après, c'est devenu. Nous avons tous dans la voiture le petit truc qui nous dit où on est, qui marche en parlant avec les satellites. D'accord ? Et la façon dont ça marche, c'est sur les satellites, en orbite autour de la Terre, il y a un certain nombre de satellites, des dizaines de satellites, qui ont des horloges précises et qui envoient un signal radio avec l'heure. Et l'horloge dans la voiture, il y a un petit système radio qui reçoit le message et fait un calcul, parce que le satellite qui est plus loin, l'heure arrive un peu plus tard, donc on reçoit des heures différentes parce qu'il avait le temps de voyage de la lumière. Sauf que quand le système a été monté, les physiciens de Los Alamos ont dit aux ingénieurs qui étaient en train de monter le système, faites attention parce que là, non, il y a plus de temps. Donc les horloges vont aller plus vite qu'ici. Les ingénieurs ont dit, bon, d'accord, mais comme le projet, c'est un projet de l'armée américaine, c'était tout décidé et filtré par l'autre administration de l'armée, par les généraux de l'armée américaine. Et quand ils ont vu que le temps est différent ici-là, on dit, mais qu'est-ce que c'est ça, on n'y croit pas. Et donc finalement, le premier système GPS, les premiers satellites ont été envoyés sans tenir compte de ce système, avec un switch qui pouvait ou non tenir compte du système. On s'est rendu compte que ça ne marchait rien sans tenir compte du fait que le temps passe différent d'ici. Donc finalement, brutalement, on a vu qu'il y a plus de temps à nous, moins de temps là-bas. Il y a moins de temps à côté d'une masse. C'est la Terre qui ralentit le temps, dans un certain sens. Plus on va proche d'une grosse masse, plus le temps ralentit. Donc sur la Terre, c'est faible ce phénomène, mais sur Jupiter, c'est beaucoup plus fort. À côté d'une grosse étoile, c'est beaucoup plus fort. À côté d'un trou noir, c'est très 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 fort. Donc si vous avez vu ces films comme Interstellar, il y a l'héros qui va proche d'un trou noir, reste là 10 minutes, et il sort, et 7 ou 8 ans sont passés dehors. Alors ça, c'est pas de la fantaisie des Hollywood, c'est de la physique. Réelle, juste, concrète. Si on s'approche de quelque chose de très massif, là, il y a moins de temps. Donc, ça veut dire que, déjà, cette image ne fonctionne pas, d'accord ? Parce que, pourquoi ? Parce que, entre ici et ici, le temps qui passe, ça dépend de où je suis. Si je passe par là, il y en a un plus, si je passe par là, il y en a moins. Donc, on ne peut pas parler d'un seul temps mesuré par les horloges. Il faut parler d'une multiplicité de temps selon où je suis, et aussi, si on rentre dans les détails de la théorie, selon comment on bouge, etc. Il n'y a pas un temps, il y a toute une variété de temps. Et ça, c'est le premier des choses qu'on a pris. Deuxième. Et la deuxième, c'est, je dirais, la plus extraordinaire. Celle qui a plus de portée philosophique. Tu dis qu'il y a un impact philosophique fort sur tout ça. Le deuxième, c'est celle qui... je pense que finalement, on a encore... là aussi, on est sûr de ça, mais on ne l'a pas encore intégré et fait partie de notre vision du monde. Et c'est le fait suivant. C'est pas seulement que... Oups. Le temps n'existe pas, allez, ça se brise. C'est pas seulement que la quantité de temps qui passe entre un instant et l'autre, ça dépend de où on est, mais c'est qu'on ne peut pas parler du même temps dans l'univers entier. Alors ça, je cherche de le dire de façon plus précise. Nous avons l'idée que maintenant, là où on est, aujourd'hui, moi, vous, on est dans le même maintenant. C'est comment ? Et on peut se demander qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant ? Vous êtes en train d'écouter, de regarder. Qu'est-ce que ma sœur qui est à Venise est en train de faire ? Je peux imaginer ce qu'elle est en train de faire maintenant. qu'est-ce qui se passe maintenant sur une étoile lointaine, sur une galaxie lointaine, je peux me demander. Alors, tout ça, ça n'a aucune signification, parce que maintenant, ça ne veut rien dire. Ça, c'est bon. Alors, pourquoi ça ne veut rien dire maintenant? Parce que, voyons, cherchons de voir qu'est-ce que ça veut dire maintenant. Maintenant, pour moi, c'est clair. Maintenant, je suis en train de parler, je sais qu'est-ce que je veux dire. Mais est-ce que moi et vous, on est dans le même maintenant? Ben oui, bien sûr, je vous vois, vous me voyez, je vois ce que vous faites maintenant, vous voyez ce que je fais maintenant. Mais ça, c'est une approximation, c'est une description approximée de ce qui se passe, hein, parce que la lumière prend du temps à voyager. Donc finalement, vous n'êtes pas en train de me voir maintenant pour vous, vous me voyez un peu dans le passé, parce que la lumière a pris du temps à aller d'ici là. Là, au fond de la salle, moi je vois monsieur, mais je le vois comme il était il y a quelques nanosecondes avant, parce que la lumière prend du temps à venir d'ici là. Donc moi je le vois dans le passé, lui il me voit dans le passé, on n'est jamais ensemble. On est toujours hors face, il n'y a jamais une... là c'est des nanosecondes. On ne perçoit pas des nanosecondes, on ne voit pas la sensation de ça, nos montres ne voient pas des nanosecondes. Mais dès que on communique, on regarde quelque chose de lointaine, ça devient énorme. Vous savez que nous voyons les étoiles, mais on les voit comme elles étaient il y a des décennies, des siècles, des millénaires dans le passé. On voit des galaxies, on voit à l'œil nu, on peut voir la galaxie d'Andromède, d'un jour clair. Andromède, c'est à des millions d'années-lumière du monde. Donc ce qu'on voit, c'est Andromède dans un lointain passé. Et si là, il y a quelqu'un qui nous regarde, au moment où je le vois, lui, il est en train de voir moi comme j'étais il y a des millions d'années. Alors moi, je n'étais pas là, des millions d'années. Il y a la Terre comme elle était il y a des millions d'années. D'accord ? Ben, on peut se dire, ben, quand même, je le vois comme il était des millions d'années, mais un million d'années plus tard, c'est maintenant. Sauf que ça ne marche pas. Si on regarde exactement comment fonctionne la structure du temps et la structure du voyage de la lumière et des choses qui bougent, on se rend compte que ça ne marche pas. Par exemple, imaginez que ma sœur n'est pas à Venise, mais elle est allée vivre sur une planète, dans une étoile à côté de nous. Non, dans le livre, je parle. Donc, quand j'étais en train d'écrire le livre, on venait de découvrir les planètes autour de Proxima B. Proxima B, c'est une des étoiles les plus proches de nous, et il y a des planètes autour. Donc finalement, si l'humanité arrive à vivre là, elle est là, c'est possible, ma sœur est là. Et je peux la regarder avec un télescope super puissant, ou bien elle me parle, elle m'envoie un message radio, et c'est à 4 années-lumière de distance. Donc, moi, je reçois quelque chose et je pense, ah, elle m'a écrit il y a 4 ans. Elle m'a envoyé un message il y a 4 ans. Donc, 4 ans après son envoi de message, c'est maintenant pour elle. Sauf que comme le temps va à une vitesse différente, 4 ans après qu'elle a envoyé le message, pour elle, peut-être elle est déjà rentrée. Elle est déjà avec moi. Et c'est dans le futur. Donc, le présent, ça ne peut pas être dans le futur. Donc, vous voyez, il n'y a pas façon... On peut faire ce jeu de façon répétée. Il n'y a pas façon de donner une définition décente, cohérente, objective, de maintenant ailleurs. Voilà, maintenant autour de nous, clair, et c'est ça que nous voulons dire quand nous parlons du maintenant, mais c'est juste à côté de nous, quand on peut négliger le temps de voyage de lumière. Et donc, de façon, on peut le dire de façon précise. Si ma précision de mesure du temps est une centaine de secondes. Le maintenant, c'est une boule autour de moi qui a la dimension, le rayon, d'une centaine de secondes lumière. Donc, de l'espace qui fait la lumière de 100 secondes. Qui est quand même grand, c'est beaucoup plus grand que la Terre. Donc, on peut facilement continuer à penser que dans la Terre, nous sommes tous dans le même maintenant. Parce qu'on ne regarde pas les temps trop petits. Mais c'est ici. Plus loin, ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas de maintenant bien défini. Tout à fait. Comme dans l'univers, il n'y a pas de haut et bas bien défini, il n'y a pas d'être pas un mouvement, parce qu'on est toujours en mouvement par rapport à quelque chose d'autre. Donc, il y a plein de choses de l'univers, il y a plein de choses qui sont raisonnables pour nous ici, mais ne sont pas raisonnables dans l'univers large. Alors, pourquoi je disais que c'est, ça a une portée philosophique forte et c'est très intense ce fait? Parce que si je demande qu'est-ce que est réel, qu'est-ce qui existe, j'ai envie de dire que ce qui est réel maintenant, pas ce qu'il y avait avant, ce qu'il y aura dans le futur. Donc nous avons une idée que la réalité, c'est la réalité maintenant, et après ça peut changer. Mais si le maintenant est défini de façon locale, seulement pas globale, il faut changer ce que nous voulons dire par réel, par existante. Il faut repenser l'existence de façon plus riche et plus compliquée. Et il faut le faire, parce que nous avons appris quelque chose en plus du monde. Donc vous voyez, la structure du monde n'est pas une ligne, pas du tout. Alors pour Einstein, effectivement, le monde, ce n'est pas une ligne, c'est une variété quadridimensionnelle, courbe, blablabla. Donc c'est plus compliqué, il n'y a pas du temps qui passe. Et ça devient encore pire au moment où, à cause de la mécanique quantique que nous savons décrire les choses bien, cette variété quadridimensionnelle d'Einstein n'est pas fixe, mais a une distribution de probabilités, ça peut être en superposition. Donc finalement, toutes les idées de la structure temporelle du monde qui marchent dans notre vie quotidienne et qui marchaient dans la physique classique ne marchent plus de qu'on va dans le large. Et ça, c'est la deuxième grosse surprise de la physique moderne. Troisième, et la troisième, c'est encore quelque chose qu'on sait clairement, mais ce n'est pas quelque chose de clair. C'est quelque chose dans lequel nous avons plein de questions ouvertes, des questions de physique ouvertes. Et c'est la chose suivante, et c'est la décision entre passé et futur. Donc ce que j'ai dit, c'est que le passé est fixe, le futur est ouvert. Le passé, nous savons quelque chose, donc le passé est complètement différent que le futur. Sauf que, lentement, à partir des équations de Newton, donc à partir du 18e siècle, lentement, plus on a appris sur la structure de la grammaire de la nature, plus on a rendu compte que cette différence entre le passé et le futur, on ne la voit pas dans les équations de la physique. On ne la voit pas dans la grammaire élémentaire du monde. Les équations de Newton, les équations de Maxwell, les équations de Schrödinger, les équations de la théorie quantique du champ, les équations d'Einstein, sont tous des équations qui ne font pas de distinction entre une direction du temps et l'autre direction du temps. Donc si un phénomène est possible dans une certaine façon, si je prends un film et je projette le film au contraire, à l'arrière dans le temps, les équations de la physique me disent que c'est possible aussi. Alors ça, c'est très frappant. On le sait depuis le 19e siècle, mais ça a été confirmé pour tout le monde. Ce qui est frappant, c'est que le monde n'est pas comme ça. Parce que le monde que nous voyons, si je prends un film et je le projette au contraire, ce sont tous des choses absurdes. Non, ce sont les choses brisées qui se remettent ensemble, etc., etc. Donc, l'évidence devant nous, c'est que le passé est différent que le futur. Mais quand on regarde comment les choses marchent, le mécanisme détaillé de comment les choses marchent ne fait pas distinction du passé et du futur. Alors ça a ouvert une énorme discussion qui continue encore, qui n'est pas terminée, qui est passée par un certain nombre d'étapes très très belles. C'est vraiment une plongée qu'on a fait dans comment comprendre le fonctionnement du monde. La première étape, ça a été avec l'étude de la chaleur, et on s'est rendu compte que chaque fois qu'il y a une distinction entre passé et futur, il y a toujours de la chaleur. Par exemple, si je fais un film d'une chose qui tombe, et vous voyez un film de quelque chose qui monte, bah, ça peut monter ou ça peut tomber, tous les deux sont cohérents, il n'y a pas de la chaleur. Si vous voyez quelque chose qui bouge comme ça à vitesse constante, que ça bouge comme ça, ça comme ça, si je projette le film au contraire, c'est toujours raisonnable. Mais si vous voyez dans un film quelque chose qui s'arrête, je le lance et il s'arrête, maintenant vous voyez le film au contraire, il y a quelque chose de très étrange qui ne colle pas, elle part tout seul. Ah, les choses ne partent pas tout seul. Donc vous, là, vous pouvez faire la distinction entre le futur et le passé. Mais s'il s'arrête, pourquoi elle s'arrête? Parce qu'il y a du frottement, et le frottement chauffe la table. Donc, il y a une distinction entre le passé et le futur, seulement quand il y a du chauffage au départ. Quelque chose qui se... du chaleur qui passe, du chaleur qui se produit. Et ça, c'est un exemple, mais c'est très général. C'est-à-dire, n'importe quel phénomène qui fait distinction entre le futur et le passé produit de la chaleur. Nous pensons, la pensée s'est orientée dans le temps, bien évidemment, on ne peut pas penser au contraire, et notre cerveau produit de la chaleur. Quand une chose se brise, il y a de la chaleur qui se produit. Ça, etc., etc., etc. Donc, la direction du temps, ça a à voir avec la chaleur. Super. Bon. Qu'est-ce qu'est la chaleur? Alors, la chaleur, ce n'est pas une chose. Ce n'est pas une chose qui connaît la direction du temps. Parce que la chaleur, ce n'est pas une chose, finalement. Ça, on l'a découvert à la fin du 19e siècle. La chaleur, c'est le mouvement désordonné d'un grand nombre de molécules. La différence entre un verre d'eau chaude et un verre d'eau froid, c'est que le verre d'eau froid, les molécules bougent plus lentement, le verre d'eau chaude bouge plus vite. Donc, la chaleur, c'est un mouvement désordonné de beaucoup de petites choses. Et là, vous voyez, c'est quelque chose d'étrange. Chaque chose individuelle, chaque molécule individuelle, suivent des lois qui ne connaissent pas le futur et le passé. Mais quand elles sont beaucoup, il y a une différence du passé et du futur. Étrange. Très étrange. La différence entre le passé et le futur vient, un physicien dit, de la deuxième loi de la thermodynamique, qui est une loi statistique. Vient seulement qu'il y a beaucoup de choses. Et quand il y a beaucoup de choses, on voit ce qui se passe. Parce que la différence entre le passé et le futur, c'est toujours du mélange. Si vous prenez un grand nombre de boules rouges et noires, et vous mettez tout le rouge d'un côté et tout le noir de l'autre côté, vous mélangez, les rouges et les noirs se mélangent, sont confus. Là, c'est le prototype du phénomène orienté dans le temps. Les choses vont vers le désordre, pas vers l'ordre. Très bien. Donc, on a compris pourquoi le passé et le futur sont différents. C'est une question de désordre. Mais non, on n'a pas compris. Parce que maintenant, la question devient pourquoi dans le passé les choses étaient ordonnées. Et la réponse aujourd'hui, c'est qu'on ne le sait pas. C'est une des questions ouvertes. Donc, le temps n'est pas orienté en soi, n'est pas orienté dans la grammaire du monde. C'est un étrange ordre des choses dans le passé qui donne l'impression très forte à nous de cette énorme différence entre le passé et le futur. Et dans le livre, la partie de livre qui n'est pas... une partie de mon livre, c'est de la popularisation des choses bien connues de physique. Une partie de mon livre, ce sont des idées sur lesquelles moi et mes collègues sont en train de travailler. Et dans la partie des livres qui est plus originale, avec des idées propres à moi et à mes collègues, je cherche de donner une interprétation possible à cette ordre du passé, d'où viennent, je vais dire quelques mots bientôt. Mais vous voyez, j'ai parlé de trois choses. La différence de la vitesse à laquelle le temps passe, l'impossibilité de donner une notion de maintenant, de présent objectif, et la troisième, la manque de direction du temps dans la grammaire de l'univers, et tout ça fait éclater complètement notre intuition du temps usuel. Moi, je travaille en gravité quantique, qui est l'effort de mettre ensemble tout ce que Einstein a compris avec la mécanique quantique, et dans la théorie que nous étudions, le temps n'a rien à voir avec le temps de l'intuition usuelle. Il n'y a pas de variable T qui décrit les états de l'univers qui passent en avant. Et il n'y a pas de variable T du tout. Ce que la théorie décrit, c'est des variables physiques qui décrivent le monde, et comme elles changent l'une par rapport à l'autre, elles ne dansent pas tous ensemble dans un temps commun. Et on a des horloges différentes qui indiquent des choses différentes. Terry dit comment les choses se portent l'une par rapport à l'autre. Donc finalement, quand on arrive, et ça, c'est la deuxième partie du livre a trois parties, la deuxième partie du livre, c'est la description de cette théorie fondamentale où on oublie le temps. Il n'y a pas de variable de temps complètement. Alors, oublier le temps, ça ne veut pas dire que tout est gelé. Attention. Ça ne veut pas dire imaginer un paysage où rien ne bouge parce qu'il n'y a pas de temps. Ça, ce serait le contraire. Parce que ça, ce serait un paysage où rien ne bouge et il y a le temps qui passe. C'est pas ça le point. Le point, c'est que la réalité, c'est des événements, des processus, des choses qui se passent, mais qui ne sont pas ordonnés tous ensemble dans un temps commun ou dans un temps organisé. Donc le manque du temps, c'est un manque d'ordre dans le chaos primordial des événements qui forment la réalité dans cette description la plus minute. Après, la troisième partie du livre, c'est le voyage du retour. Parce que finalement, une fois qu'on a compris qu'au niveau fondamental, nos idées sur le temps ne sont pas bonnes, d'accord, on fait une théorie sans nos idées usuelles sur le temps. Mais il faut bien retourner en arrière, il faut bien comprendre alors qu'est-ce que c'est dans cette théorie fondamentale sans le temps, qu'est-ce que c'est le temps de notre expérience. Et moi je pense que c'est une erreur, comme certains le disent, de dire « Ah, notre expérience est une illusion ». Notre expérience, ce n'est pas une illusion, c'est notre expérience qui est celle qu'elle est, même si ce n'est pas général. Par exemple, nous disons ici que là c'est le haut, ici c'est le bas. On sait bien que dans les équations de Newton, il n'y a pas de haut et de bas. Mais haut et bas, ce n'est pas des illusions. Je ne peux pas marcher sur le plafond après que j'ai lu les équations de Newton. Ça reste vrai que je suis collé en bas. Sauf que je le comprends par une histoire plus compliquée. Dans l'univers entier, il n'y a pas de haut et de bas, mais quand même, il y a la Terre, il y a la planète, il y a la gravité, donc je suis attiré. Donc bas, ça veut dire vers la Terre, la grosse masse qui me tire. Donc je comprends comment une théorie générale comme celle du Newton, où il n'y a pas de distinction entre le haut et le bas, je peux récupérer mon expérience de voir ici le haut et le bas, localement. Mais par exemple, si je vais dans un voyage dans un vaisseau spatial loin de la Terre, il n'y a plus de haut et de bas. Les astronautes, on a vu les photos, ils sont tous tournés de tous les côtés, il n'y a pas de haut et de bas. Alors il faut faire la même chose avec le temps. La théorie fondamentale n'est pas le temps, mais il faut recouper comment se forme le temps que de notre expérience à l'intérieur de la physique. Et moi, je pense que ça, c'est un chapitre fondamental en général de notre connaissance. La connaissance scientifique, des fois, est en contradiction avec l'image média du monde, mais c'est pas une contradiction profonde avec cette. Il faut comprendre comment les choses se mettent ensemble. Il faut comprendre comment, de notre perspective, les choses apparaissent d'une façon qui n'est pas celle plus générale. Donc il faut récupérer notre. Donc dans la deuxième partie du livre, je reviens en arrière. Et à partir de la théorie générale du monde où il n'y a pas de temps, je reconstruis d'où vient notre notion de temps. Et d'où viennent-elles? Elles viennent de beaucoup de. Des niveaux différents, c'est des couches différentes. Et je pense que souvent on fait confusion sur le temps parce qu'on pense le temps comme une chose unique. Le temps passe, le temps, il y a toutes ces propriétés que j'ai dit au début. Le temps de notre expérience est quelque chose de très compliqué, généré par des couches différentes où il prend ses propriétés une après l'autre. Alors, d'abord, évidemment, le temps de notre expérience est un temps local. C'est pas le temps global de l'univers, c'est ici, à côté de nous. Nous, en tant que système physique, pas vous en tant qu'esprit pur. Moi, je suis un morceau de la nature, et ce morceau de la nature qui est moi, ici, il y a des choses qui se passent, et la façon plus élémentaire de comprendre qu'est-ce que le temps est celle, finalement, qui est celle d'Aristote, celle du début. Le temps est le comptage des choses qui se passent. Aristote dit, le temps, c'est le jour, la nuit, je le compte, ça, c'est le temps. C'est pas quelque chose en plus universel, séparé du changement des choses locales. Mais, quand même, il y a toute une très complexe phénoménologie du temps autour de nous. Et d'où viennent-elles? d'où vient le fait que nous voyons le passé ordonné, le passé si différent du futur. Alors l'hypothèse que je discute dans mon livre, c'est qu'une grande partie de ça, c'est une question de perspective. C'est pas une question de... C'est pas la nature, c'est pas le monde qui oriente dans le temps, c'est notre interaction avec le monde qui l'oriente dans le temps. Alors pour faire une analogie, mais une analogie importante, je pense, j'ai toujours été frappé de peut-être la plus grande découverte de l'histoire de la science du début de la science moderne, c'est la révolution copernicaine. Alors qu'est-ce que c'est la révolution copernicaine? Depuis toujours, on voit le ciel qui tourne autour de nous. Non, il y a un soleil qui monte, se couche, la lune qui monte, se couche, les étoiles qui montent, se couchent. Donc il y a cet immense spectacle du cosmos qui tourne autour de nous. Et donc on se demande pourquoi le cosmos tourne comme ça, comment il tourne, quelles sont les règles qui disent comment il tourne. Et ça a pris des siècles, il y a toute une très longue astronomie ancienne, très bon, très intéressant, mais ça a pris des siècles pour comprendre, et on a compris, qu'est-ce qui se passe. On l'a compris très bien, sauf qu'on n'a pas compris qu'est-ce qui se passe au ciel. On a compris que c'est nous qui tournons. Et donc le grand mouvement du ciel, c'est tout simplement le fait qu'on est assis sur un gros caillou qui est en train de tourner sur lui-même. Et dès qu'on a compris ça, d'un coup, ça devient presque évident. On est assis sur un caillou qui tourne, donc on voit tout qui tourne, etc. Et tous les détails, tout le reste. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que un phénomène qui semble très évident, très fort, très cosmique, on ne comprend pas en regardant là, mais en regardant nous-mêmes. C'est-à-dire Copernic, un étudiant de scène, a compris qu'est-ce qui se passe sur ce pied. Donc, on a compris quelque chose à propos de nous, de notre perspective du monde, comment on voit le monde. Nous sommes à l'intérieur du monde, nous ne sommes pas dehors du monde. Et quand nous faisons de la science, nous voulons être objectifs, mais il ne faut pas jamais oublier le fait que ce que nous voyons, c'est le monde vu de l'intérieur, pas le monde vu de l'extérieur. Donc, il y a toujours cet aspect de perspective dans notre façon de voir le monde. Et nous, notre interaction avec le monde n'est pas avec le monde tout entier et avec une partie infime des variables du monde. Parce que nous sommes aveugles, nous voyons le spectre électromagnétique, tout un petit morceau de notre spectre électromagnétique. On ne voit pas les atomes, on ne voit pas les propos d'espace, on voit plein de choses, on ne voit pas. Et nous voyons très peu de l'immensité de l'univers. Donc nous avons une image de l'univers très floue. Très approximé. On regarde un verre d'eau, on ne voit pas les molécules qui zigzaguent. C'est ce flou qui donne la statistique, c'est ce flou qui donne la thermodynamique, la notion de chaleur, la notion d'entropie. Et c'est dans ce flou qu'il faut trouver la source de la différence entre le passé et le futur. Et moi, je pense que la source de la différence entre le passé et le futur, ce n'est pas que le monde était ordonné dans le passé. Le monde était comme il était dans le passé. C'est que par rapport à la façon dont nous voyons le monde, les variables physiques, l'interaction entre nous et le monde, c'est ces variables qui déterminent l'impression d'ordre dans le passé. Vous voyez, si j'ai des boules blanches et noires qui se mélangent, dans le passé, les blanches étaient d'un côté, les noires étaient de l'autre côté. Donc, cet ensemble de boules était ordonné dans le passé. Mais si j'ai un ensemble de boules qui chacune a son nombre, je les mélange. Et après moi je regarde et j'apprends par cœur lesquelles sont d'un côté, je vois quand même quelque chose qui se mélange. Parce que je vois que celle qui était d'un côté se mélange avec les autres. Mais c'est pas que le monde était ordonné au début, c'est moi que je l'ai ordonné. Parce que j'ai une relation particulière avec ce monde. Ça c'est un peu l'idée du fait que le deuxième principe de la thermodynamique, donc l'augmentation de l'entropie, c'est un phénomène, ça peut être un phénomène de perspective. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une idée sur laquelle j'ai travaillé, je travaille encore et je vais vous le dire. Et ça commence à faire voir comment ça peut émerger d'un monde sans temps, structure temporelle et ordonnée. Mais ce n'est qu'un début. On parle de 68, parce que partout il y a... C'est l'air debout parce que notre expérience du temps n'est pas seulement la différence entre le passé et le futur. Notre expérience du temps est très, très complexe, très riche. Et si je veux comprendre qu'est-ce qu'est notre expérience du temps, il y a plein de choses, je pense, qu'il ne faut pas demander à la physique. Il faut demander ailleurs. Et en particulier, il faut demander aux gens qui étudient la façon dont notre cerveau fonctionne. Notre perception du temps, ce n'est pas directement le temps de la physique. C'est la façon complexe dans laquelle notre cerveau, qui est un morceau de physique, interagit avec le reste. Comme il y a de l'ordre qui monte, il y a l'entropie qui monte, il y a des traces du passé, et notre cerveau, c'est toute une machine qui ne fait que absorber des traces du passé pour chercher tout le temps de prévoir le futur. Et je parle beaucoup de Proust dans un des chapitres du livre, parce que dans la recherche, il y a cette intuition incroyable que je trouve que Proust a. C'est son roman énorme, non? C'est des milliers de pages avec plein de personnages, de parfums, de couleurs, de considérations, d'idées, de caractères, de relations, tout ça. Mais c'est pas présenté comme une description du monde. C'est tout présenté comme quelque chose dans la mémoire du personnage. Marcel, il s'appelle le personnage. Donc, c'est toute une 3000 pages sur ce qu'il y a entre les deux oreilles de Marcel. C'est tout là. Et Proust est très explicite sur ça. Il dit la réalité de laquelle on parle, c'est tout dans la mémoire. Et ça, c'est important. Parce que pourquoi nous sommes, comment nous savons que le temps passe? Si nous sommes dans le présent, qu'est-ce qu'on sait du passé? Qu'est-ce qu'on sait du futur? Ça, c'est Saint-Augustin qui a commencé à soulever cette question, qui est une question absolument formidable. Comment nous sommes conscients d'une durée si on est à chaque moment, on est dans un présent? Mais la réponse est, évidemment, et Saint-Augustin l'a dit clairement, le passé est dans nous maintenant. Dans le présent, il y a quelque chose qui a à voir avec le passé, qui est la mémoire. Et toute la neuroscience contemporaine, finalement, il y a plein d'avancées qui sont en train de se faire sur la structure du cerveau, ne font que confirmer cette idée que le cerveau. Il y a un livre d'un scientifique américain qui vient de sortir, et le titre est Your Brain is a Time Machine. Votre cerveau, c'est une machine qui génère le temps, qui vous amène dans le temps. Je pense que là, c'est où il faut chercher les aspects caractéristiques de ce que le temps est pour nous. Pas dans la physique, pas dans les équations de la physique, où on voit le temps moins en moins en moins en moins. Donc, le temps pour nous, c'est cet espace que la mémoire et l'anticipation créent, génèrent, dû à la structure dont notre cerveau fonctionne, qui évidemment s'accroche à la physique, s'accroche à l'entropie, c'est pas, on vit pas dans le rien, mais on ne comprend pas l'expérience de la temporalité complètement pour nous si on ne regarde que à la physique, regarder à la science du cerveau. Et je pense que ça va encore un peu plus loin, et je vais arriver là comme dernière chose. Parce que l'expérience du temps pour nous n'est pas neutrale, est fortement émotionnelle. Le temps pour nous, ce n'est pas quelque chose à laquelle on pense de façon détachée. Étudier le temps, ce n'est pas comme étudier la structure du bois. Parce que mais le temps, c'est le temps de notre vie, et on est immergé dans le temps, et nous ne pouvons pas penser nous-mêmes sans nous penser dans le temps. Et surtout, notre cerveau est un effort pour calculer le futur et pour gérer le futur dans certains moments. Et le temps, c'est la source de toutes nos possibilités, mais aussi de nos angoisses, de tout ce qu'on perd, de tout ce qu'on... de tout ce que nous fait souffrir. Le bouddhisme, au corps du bouddhisme, il y a les grandes vérités des Bouddhas. La première est que la vie est souffrance, et la deuxième est que la raison pour laquelle la vie est souffrance est que ce qu'on a, on n'aura pas, et la difficulté que nous avons à gérer l'impermanence. Et l'impermanence, c'est le temps. Donc, pour le bouddhisme, ça veut dire pour un cinquième de l'humanité, la raison de la souffrance qui est au cœur de l'expérience religieuse est le fait que le temps passe. Il y a une remarque qui fait un philosophe Reichenbach, un des grands philosophes de la philosophie analytique américaine, qui dit que dans la philosophie, il y a eu plein de... Dans l'histoire de la philosophie, il y a plein de philosophies qui, d'une façon ou l'autre, cherchent de nier le temps. À partir de Parménide, par le monde des idées de Platon, jusqu'à, je sais pas, Hegel, que l'esprit qui prend conscience de soi-même et sort de la temporalité, etc. Et dans les religions, il y a plein de discours sur la sortie du temps, sur l'éternité de l'âme, l'éternité de Dieu, etc. Un monde dehors de la temporalité. Et Reich me dit peut-être, finalement, tout ça, ce n'est qu'une réaction à l'angoisse du temps dans laquelle nous tous sommes. Après, il y a aussi une autre philosophie opposée, soit Héraclite ou Bergson, qui met le temps et le passage au centre de tout, sans nous amener non plus proche de la description finale du monde. Et je pense qu'il y a quelque chose de très fort là, et ça m'a frappé qu'il y a une considération similaire dans une philosophie complètement différente que Heidegger. Heidegger, qui aussi lit... évidemment, le temps pour Heidegger est très très central dans sa philosophie, mais ce n'est pas l'important de la physique, de façon très explicite. C'est le temps expérimenté par l'être qui pose la question de l'être, donc par l'homme. Et c'est Heidegger qui a cette image de le clearing in the wood, comme on dit en français, l'espace ouvert dans la forêt, qui est la partie du temps que nous voyons. Vous voyez, c'est exactement le temps en tant que mémoire et expérience, en tant que séparé de l'espace de la physique. Les deux discussions ne sont pas en contradiction l'une avec l'autre. Le temps de l'expérience s'est construit, s'est fait, on peut le comprendre en termes de physique élémentaire, mais avec un long parcours compliqué, et n'est pas directement le temps de la physique. Et c'est un temps fait de mémoire, fait d'anticipation et surtout fait d'émotions fortes. Et si on voit comme ça, je pense l'émotion du temps qui est si forte pour nous tous, parce que le temps, on le perd entre nos doigts, parce qu'on va mourir, parce que tout est limité, cette émotion forte n'est pas une espèce de nuage qui est émotif, qui nous empêche de voir ce qui est le temps vraiment, cette émotion du temps est ce que pour nous est le temps pour nous. Je m'arrête là. Merci.
Un grand merci.
Un grand merci, Carlo, pour cette déconstruction, reconstruction du temps dans tous ses aspects. Est-ce que, puisqu'on a un petit peu de temps, je vais passer la parole à la salle de suite, mais j'aimerais t'interroger d'abord sur... est-ce que tu pourrais nous en dire plus, parce que c'est une idée assez forte de ton livre, l'idée que le temps doit être, comme tu nous l'as bien montré, doit être déconstruit dans tous ses aspects, en tout cas le temps au sens newtonien, qui est aussi un peu aujourd'hui devenu le temps de notre expérience quotidienne. Il faut en dégager, il faut sortir donc de ces différents aspects et que tu as bien distingué, que tu as bien détaillé là, à nouveau lors de cette conférence. Et notamment, c'est une nécessité imposée par les théories de l'arbitre quantique. Mais le fait de sortir des différents aspects du temps ne t'amène pas, tu en as fait une allusion très rapide, ne t'amène pas à nier le temps, à cette idée un peu parménidienne d'un temps comme illusion ou comme négation. Donc à la fois tu montres la nécessité de déconstruire les aspects du temps et en même temps tu arrives à l'idée que quelque part il faudrait distinguer une notion de changement ou de variation qui ne se réduise pas au temps. Donc comme tu es un théoricien de cette théorie de gravité quantique à boucle et que quelque part tu as une image de ce monde un peu de variation sans temps, tu en as un petit peu parlé, cette idée de il n'y a que des variables dynamiques qui varient les unes par rapport aux autres. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous le décrire plus? Enfin, est-ce que c'est l'idée que c'est une variation en tout sens des choses, sans direction, sans présent? Et pourquoi tu tiens à l'idée de conserver justement l'idée que les choses changent et varient même à ce niveau-là, sans tomber dans l'idée que beaucoup de théoriciens qui pensent avoir entièrement compris Einstein, en avoir tiré toutes les conséquences, ce à quoi ils aboutissent, c'est-à-dire l'idée de ce que j'en ai pas trop parlé, ce bloc d'univers, l'idée d'un temps gelé, d'une réalité entièrement donnée, déjà là. Voilà. Est-ce que tu peux me préciser cet aspect-là?
Oui. Alors d'abord pour éclaircir ce que tu dis, un des problèmes qu'on a toujours, c'est qu'avec le mot temps, on indique plein de choses différentes. Donc ça, c'est un peu le message central du livre. Attention, avec temps, on indique tout le contraire de tout. Donc il y a une notion de temps très structurée, très riche, avec plein de propriétés, qui est celle de laquelle je suis partie, l'univers qui change dans le temps orienté, le temps mesuré, le temps éclaté. Et après, on parle encore du temps, mais il y a des notions plus faibles. On parle de temps en réalité restreinte, on parle de temps en réalité générale, plus via via plus faible. Et finalement, si on veut, on peut encore parler du temps de la façon la plus faible possible, tout simplement pour dire que les choses changent. Et je ne vois rien qui contredit cette notion très faible du temps, qui est celle d'Aristote. Le temps en tant que une façon n'importe quelle de mesurer un changement des choses. Et alors, une fois éclairci ça, je pense que ta question est pourquoi je ne vais pas dans la direction du bloc univers de l'éternalisme, parce que je pense que c'est une erreur conceptuelle l'éternalisme, c'est une et le bloc univers. C'est-à-dire, strictement parlant, l'idée de l'éternalisme du bloc univers n'est, si on oublie la mécanique quantique et on tient compte de la relativité générale d'Einstein, on n'a pas le présent, mais on a quand même cet ensemble des événements de l'univers que je peux décrire avec une équation, avec un dessin dans un tableau qui représente tout ce qui se passe dans l'univers, dans le passé, futur, présent. Il n'y a pas un présent particulier. Je peux dire maintenant on est là dans un endroit, ici, maintenant, mais pas présent. Alors les gens disent, alors ça c'est la réalité. La réalité, c'est ce dessin. Et dans ce dessin, comme il n'y a pas de présent, rien ne se passe, parce qu'il n'y a pas une succession de présents. Alors je pense qu'il y a 3 ou 4 erreurs, l'une après l'autre, en faisant ce saut. D'abord, je suis en train de décrire la réalité de l'extérieur. Et pire, je suis en train de penser que je suis dehors de la réalité, j'ai l'horloge, je pense, et en tant que je pense, rien ne change là. Mais quel est ce temps dans lequel je pense dehors de la réalité? J'ajoute une dimension temporelle qui est complètement non réelle, ça fait partie de mon rêve, et je dis dans cette dimension temporelle que j'ajoute, parce que je ne suis pas capable de penser sans le temps, rien ne change dans le monde quadridimensionnel. Alors, c'est faux parce que je suis en train de parler d'un temps qui n'existe pas. Et c'est faux parce que dans le monde quadridimensionnel, cette image, c'est l'image, c'est un dessin pour dire de comment les choses changent, c'est pas un dessin pour dire de comment les choses sont. Okay? Les dessins quatridimensionnels d'Einstein, le bloc univers, c'est une description de l'expérience qu'on a autour de nous et que d'autres peuvent avoir, qui est l'expérience de changement continu. Plus que ça, si je prends un petit morceau de ce dessin, ce morceau ne représente pas une chose, parce que ça a une durée limitée dans, dans le temps. Ça représente un processus. Donc, et finalement, le langage même que les physiciens utilisent, c'est un ensemble d'événements, pas un ensemble de choses. La notion de choses est celle qui nous génère confusion, parce qu'on veut s'accrocher aux choses. Et comme en réalité générale, on n'a pas de choses, on transforme l'ensemble de la réalité présente, future et passée, toute dans une chose. Mais la notion erronée, c'est la chose. Le bloc, où est le bloc? L'univers n'est pas de bloc. Ça, c'est un bloc parce que ça dure un peu. Mais l'univers, en tant que tel, c'est un ensemble d'événements. D'événements qui ont une durée, c'est-à-dire que je peux compter bon, des choses qui se passent. Donc moi, je trouve que l'alternative qu'on trouve dans les discussions de philosophie entre présentisme et éternalisme, présentisme étant l'univers tout entier dans un présent qui passe, éternalisme étant, il y a le bloc unidimensionnel, c'est une fausse alternative. Ni l'un ni l'autre sont une bonne description du monde. Une bonne description du monde, c'est l'ensemble d'événements qui ne sont pas ordonnés dans un temps commun.
Est-ce que nous avons des questions dans la salle?
Dans le cas du maintenant, vous disiez que le maintenant, ça n'existe pas pour des raisons de... enfin, entre deux objets relatifs, distincts. Mais si on considère par exemple deux photons qui sont intriqués, ben, en fait là, c'est instantané ce qui se passe entre ces deux photons. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas le même maintenant?
Non, absolument rien d'instantané entre deux photons ou deux particules. Et on peut le voir comme ça. Si on a deux particules, peuvent être des photons, des électrons, c'est vrai, s'ils sont intriqués, que le résultat de mesure sur l'une se trouve être corrélé avec le résultat de la mesure de l'autre, d'une étrange façon qu'on n'arrive pas à réduire à une propriété commune. Mais absolument pas, il n'y a rien d'instantané. Et en effet, si moi j'ai fait des mesures d'un côté et de l'autre, et après je regarde les résultats de mesures, il n'y a aucune façon de voir quand il y a eu un passage d'information. Il n'y a pas de passage d'information. Par exemple, je ne peux pas dire si c'est la mesure ici qui a influencé celle-là, ou au contraire, si c'est celle-ci qui a influencé celle-là. Je peux le décrire dans les deux façons. Donc, je peux te donner tous les possibles résultats des mesures plein de fois, et tu ne seras jamais capable de regarder les mesures d'un côté et de voir quand l'autre de l'autre côté s'est passé. Donc, je le dis précisément, dans la phénoménologie des corrélations impliquées, des paires et des R, etc., il n'y a rien qui choisit une simultanéité entre les deux. Et ça, c'est un fait, c'est un point, c'est un théorème, quand on dit que c'est le nom du signe de l'équilibre. Donc, ça veut dire que l'idée que nous avons, qu'il y a un collapse de la fonction d'onde et de suite de l'autre côté, quelque chose se passe, c'est pas une chose réelle, c'est pas quelque chose de réel qui se passe. Bell, qui a discuté ces choses, disait au moment où. Le roi de France est mort, instantanément, son fils devient le roi de France, même s'il est très très loin. Mais ça ne veut pas dire qu'il a quelque chose qui voyage très vite. c'est les conventions qui c'est notre convention qui change. De facto, il y a des choses qui se passent dans deux endroits différents du monde qui n'ont pas d'influence l'un sur l'autre.
Deux questions. La première, c'est ce fameux 13,5 milliards d'années qu'on parle beaucoup, qui est très d'origine arabe. Est-ce que du coup, ce 13,5 milliards, il est universel? Et vu que maintenant, avec ces notions de temps qui sont différentes selon où on se place, quelle est sa signification?
Tu parles de l'âge de l'univers.
Oui. Et la deuxième question, un peu plus philosophique, c'est quand vous êtes dans votre laboratoire, est-ce que votre façon de travailler, c'est de vous dire je travaille sur une théorie pour essayer de comprendre l'ensemble de la physique, qui je crois un peu, on entend parler des théories M, hein, qui est un grand vent en poupe avec la théorie des cordes, ou est-ce que c'est expliquer une certaine chose, de mettre un modèle dessus, mais qu'il n'existe pas forcément cette théorie du tout? Je ne sais pas quelle est votre façon d'avancer le travail.
Alors, sur l'âge de l'univers, on lit souvent que l'univers a, je sais pas, 14,2 milliards d'années. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, on pourrait penser que ça veut dire que si au début de l'univers, dans un moment très jeune, je prends des horloges, toute une série d'horloges, maintenant ils sont tous à 14,2, ils ont tous mesuré 14,2 millions d'années. Sauf que c'est pareil. Parce que le temps passe de façon différente dans des endroits différents. Donc nous sommes à l'intérieur de la galaxie, par exemple. À l'intérieur de la galaxie, le temps passe plus lentement que dehors de la galaxie, parce qu'il y a un puits de potentiel. Donc ça veut dire que si ces horloges étaient là, nous on regarde cette horloge, on regarde, ça fait 14,2 millions d'années, on prend un vaisseau spatial, on sort de la galaxie, et là, il y a des horloges qui mesurent 14,7 milliards. Alors, lequel est l'âge de l'univers? Ce qu'on appelle l'âge de l'univers, c'est un âge moyen. Une âge moyenne, si on imagine de faire une moyenne pour les différents densités de matière qu'il y a dans l'univers, qui est un concept bien défini, mais n'est pas un concept fondamental. Et finalement, ça peut être défini de façon un peu différente aussi, en donnant des valeurs un peu différentes. Si je la définis dehors de la matière, c'est différent que si je la définis en moyenne. Donc, c'est pas que dans la vie, dans notre vie quotidienne, ça n'a aucune signification de donner des intervalles de temps. Moi, j'ai l'âge que j'ai. Dans certains sens, c'est correct. C'est l'idée qu'il y a un temps commun, absolu, objectif, qui détermine comment les choses se passent de façon commune, qui est fausse. Il y en a plein de temps. L'âge de l'univers, c'est une des choses qu'on peut calculer en faisant de moyenne et en utilisant le fait assez contingent que l'univers n'est pas trop... c'est assez homogène, ce qui n'est pas vrai parce qu'il est plein de trous noirs. Mais donc, on ne regarde pas les trous noirs parce que l'âge de l'univers proche des trous noirs, c'est beaucoup plus court. C'est énormément plus court. Ça contradit l'âge de l'univers. Non, c'est qu'il y en a beaucoup d'âge de l'univers et on prend une qui est... Comme si je dis quel est l'âge de la France. Ben, ça dépend du camp. Du premier roi, de quand les Francs sont arrivés, les Gaulois, de la République, quelle est la République. Bon. Ce sont des notions variées. La deuxième question, c'est... comment je travaille, moi, si en cherchant la théorie finale de tout ou bien en étudiant un phénomène un par un? Moi, je pense que la théorie finale de tout, ce n'est pas une très bonne idée. On n'y est pas. On n'y est pas. Il y a eu, dans les années 80, l'idée de la théorie M, sortie de la théorie des cordes. Il y a eu un moment où, d'enthousiasme, peut-être on y est. On pensait de pouvoir calculer tous les constants du modèle standard, on pouvait calculer tout, et ça n'a pas vraiment marché. On cherche encore, mais bon, il y a beaucoup moins d'enthousiasme. Et mon opinion personnelle, c'est que chercher la théorie de tout maintenant, c'est comme si, au temps de Newton, il aurait voulu chercher la théorie de tout. assez stupide, parce qu'ils ne connaissaient pas les fonctions de Maxwell, ils ne connaissaient pas les forces nucléaires, ils ne connaissaient pas les atomes, donc c'est trop tôt, essaie trop tôt maintenant encore. Mon travail, ce n'est pas chercher la théorie du tout, mais c'est quand même chercher la théorie la plus cohérente que nous avons maintenant, et comme il y a des problèmes très généraux, très généraux, très spécifiques, comme le problème de la gravité quantique, donc le fait que nous avons une très bonne description du champ gravitationnel du Einstein, mais qui ne s'accorde pas bien avec la mécanique quantique, là c'est un problème très général, savoir la structure de l'espace-temps, savoir la relation de l'espace et de temps, donc c'est un problème très général, mais c'est quand même pas la théorie finale de l'univers. On a travaillé sur cette théorie pour longtemps. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire dans mon groupe de recherche, par exemple, c'est de chercher d'appliquer la théorie au futur du trou noir, voir qu'est-ce qui se passe en trou noir à la fin de l'évaporation, donc l'appliquer à des situations concrètes pour chercher d'évaluer si la théorie est bonne.
Les unifications sont toujours partielles en physique, elles sont destinées à être partielles et jamais définitives. C'est un peu l'illusion dans laquelle est tombée la théorie Hebb, cette idée d'une unification définitive et global.
Oui, je pense que oui. Et moi, je pense que la science moderne est née dans ce livre extraordinaire qui est le livre de Newton, qui est, si on veut, la synthèse la plus émotionnante et que l'humanité fait, parce que d'un coup, il y a ces équations dans lesquelles le ciel, la terre, tout rentre, et ce sont les équations qui on utilise encore nos ingénieurs, ils construisent un pont, ils utilisent l'équation de Newton. Mais la fin du livre de Newton, c'est quand il dit, alors il y a cette force de gravité qui se passe entre la Terre et la Lune, comment ça peut se passer, qu'il y a cette relation. Et il termine le livre avec cette phrase, l'hypothesis non fingo, que je pense c'est une profondeur absolue. Parce qu'il est en train de dire, je ne le sais pas et je ne sais pas les moyens pour résoudre ce problème. Donc, il ne dit pas, attention, il ne dit pas que c'est impossible de résoudre. Peut-être 300 ans dans le futur, certains messieurs en Suisse, le nom d'Albert, va trouver exactement la solution à ce problème-là. Mais moi, je ne vais pas faire des hypothèses que je ne peux pas, sur lesquelles je ne vais pas avoir des bons arguments pour les.
Déjà bonjour. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de votre domaine et enfin, je découvre énormément de choses depuis quelques mois, donc déjà merci. Mais j'avais quelques. C'est pas vraiment des questions, c'est plus des. Parce que j'arrive pas encore à formuler, c'est encore flou. Mais plus une remarque, notamment quand vous citez Proust, quand vous parlez beaucoup de Proust, moi j'ai pas eu l'occasion de le lire toute l'œuvre, mais je connais bien sûr l'idée du temps, etc., qui est derrière.
Très long, c'est très long.
C'est. Voilà, c'est. J'ai pas eu le temps, enfin. Et par contre, je me suis beaucoup intéressée au postmodernisme, et notamment donc, à la conception du temps dans l'œuvre par exemple de John Dos Passos, avec cette idée de phénomène de transfert, avec cette idée du coup du temps non pas linéaire, mais une façon de raconter l'histoire et que ça puisse créer donc, des couches de temps. Voilà. Et donc on a vraiment une autre conception du temps, et donc. Enfin voilà, après je voulais savoir si vous l'aviez lu. Enfin, si vous avez lu donc, les œuvres qui s'inscrivent dans cette démarche-là, ou encore l'appel du temps de Martha Amis, ou l'histoire racontée à l'envers, comme ça en temps de une cassette. Et voilà, je veux savoir ce que vous en pensiez. Si vous...
C'est qui le premier que vous avez
lu? John Dos Passos. C'est un écrivain américain. Madame de Transfer, ça a été écrit en 1925 et tout comme ça. Voilà. Et enfin, voilà, donc c'était plus une remarque. Puis
c'est
une envie d'échange.
Oui, moi je ne connais pas ni l'un ni l'autre, et ça m'intéresse après pour vous donner les détails. Dans le monde de la littérature, il y a eu beaucoup de travail sur différentes façons de penser le temps. C'est un vieux thème, le temps et les jeux avec le temps, la possibilité de. Ce que je trouve, c'est que. C'est pas que les humains ont difficulté à penser que le temps est flexible, c'est qu'après on va à l'école, Et le maître nous dit, ah non, non, il y a tout ce temps flexible de ton expérience, mais derrière, il y a le temps de la physique qui est vrai. Donc finalement, on découvre que nous, de vrai, il y a le temps de la physique, et lui aussi, il est flexible et on le tourne autour. Mais le temps de la narration, le temps de notre expérience, et le temps exploré par plein de gens en philosophie et en littérature, est certainement riche.
Et justement, toujours par rapport à la conception du temps, tout à l'heure, vous disiez qu'on cherche à nier le temps, enfin, nier l'existence du temps, donc, pour lutter contre l'angoisse de la mort, etc. Et donc, en fait, je voulais savoir, est-ce qu'on a la réponse, parce que est-ce qu'on a la réponse, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un début et une fin à l'univers, ou est-ce que justement, il n'y en a pas? Et en fait, parce que ça m'a fait penser à... du temps, enfin...
du temps.
Ouais, voilà. Enfin, c'est parce que s'il existe, est-ce que d'un coup, il a commencé à exister? Enfin, ouais. Et du coup, ça m'a fait penser à la conception, parce que vous avez parlé de la religion, enfin, des religions qui niaient le temps, enfin, avec l'idée d'éternité, donc sans temps, effectivement. Et je sais que dans la conception, par exemple, islamique du temps, enfin dans les textes là, on retrouve cette idée déjà de différentes temporalités entre donc, le temps terrestre et le temps qui serait là-haut et du coup qui serait beaucoup plus... Enfin, il y a plus de temps, c'est ça ? Ouais. Ou je sais plus. Ouais. Il y a toutes sortes de relativités. Et donc l'idée de plusieurs types d'éternité. Donc l'idée de quelque chose qui a toujours été là et qui n'a pas de début, pas de fin, mais aussi une idée de forme de temps très très long, de long et lent, et puis du temps très court. Donc je sais pas, en physique j'ai pas compris en fait si vous êtes mis d'accord sur l'idée que il y a un début, une fin, justement il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, ça a toujours été.
Alors la question. Comme le temps est une notion complexe, tout le scope que j'ai fait, c'est le temps est une notion complexe, il faut se demander lequel temps peut avoir un début en fait. Et je pense que le temps que tu fais allusion, c'est un cosmologique. Est-ce que le temps de l'univers tout entier, est-ce que l'univers a eu un début et aura un fin? Et c'est un argument qui est beaucoup discuté en physique. On sait avec une bonne confiance que l'univers a grosso modo 14 milliards d'années dans le passé était très comprimé, très chaud, et on est en train de comprendre qu'est-ce que s'est passé là. Et il y a une hypothèse possible que se demander qu'est-ce qu'il y avait avant n'a aucune signification, donc il n'y a pas de temps avant, et c'est une hypothèse qui a été explorée par des gens, Stephen Hawking, c'est vrai qu'il y a c'est beaucoup de temps d'explorer cette possibilité, c'est sur la table, c'est possible, mais c'est pas quelque chose sur lequel on est convaincu, et finalement c'est bien possible qu'on puisse parler de avant le Big Bang, et maintenant je dirais il y a plus de travaux qui cherchent d'explorer si on peut décrire avant le Big Bang, qu'est-ce qui s'est passé avant le Big Bang, et alors évidemment on peut se demander, oui d'accord, s'il y avait quelque chose avant le Big Bang, ça vient d'où? Ça vient de l'autre Big Bang? Et la réponse raisonnable, me semble, c'est qu'on ne sait pas. On peut spéculer, on peut inventer, on peut faire des modèles, on ne sait pas. Sur le futur, juste une chose. Sur le futur, il y a 10 ans, il semblait que l'évidence, c'est que l'univers allait recollapser sur lui-même. Maintenant, c'est le contraire. On a assez d'évidence que l'univers est en train de... Donc, le modèle dominant maintenant, c'est une expansion qui va continuer à toujours, mais comme il y a 5 ans qui est différent, 5 ans du futur, ça pourrait changer quelque part.
Bonjour, j'ai juste une petite question. Est-ce que cette nouvelle idée du temps, est-ce que ça fait basculer aussi notre conception des causes-effets?
Oui, très, très bonne question. Oui, complètement. complètement. La discussion est ancienne, c'est pas nouvelle en réalité, parce que par exemple Bertrand Russell a beaucoup écrit sur ça, Et c'est lui qui a éclairci fortement. Il n'y a pas de cause-effet dans la physique. La physique fondamentale n'est pas, ou pas jamais de cause-effet. Pourquoi ? Parce qu'on parle de régularité, et ces régularités sont symétriques dans une direction du temps et de l'autre. Donc la différence, l'idée même de cause-effet, c'est la cause dans le passé, l'effet dans le futur. Donc, Bertrand Russell arrive à écrire, comment il dit, la notion de cause, c'est un relict d'une façon de penser ancienne qui reste dans notre usage seulement parce que elle est faussement considérée qui ne fait pas de dommages comme la monarchie anglaise. Alors Benhamas exagère évidemment parce que la notion de cause et effet reste très importante dans notre vie, on y pense tout le temps. Et pourquoi reste importante dans notre vie? Parce qu'il y a l'entropie, parce que l'expérience du monde dans lequel nous sommes immergés s'est orientée dans le temps. Nous ne connaissons pas le futur et nous connaissons le passé. Donc on peut se demander qu'est-ce que nous voulons dire quand nous parlons de cause et effet, et la réponse est en termes de probabilité et de statistique. Et il y a une longue histoire à reconstruire, qu'on le fait, à partir de la deuxième loi de la thermodynamique, de l'entropie qui monte, qui donne une orientation du temps. Et donc, je peux dire, comme mon cerveau connaît le passé, mon cerveau utilise une logique dans laquelle le futur est considéré ouvert, le passé est considéré fixe. Donc, on peut se demander comment serait le passé si je tiens le futur. Comment serait le futur si j'étais le passé tout fixe, sauf pour une petite chose. Et donc, je commence à construire la notion de cause. Donc, on peut reconstruire la notion de cause de façon non primordiale, non fondamentale, mais elle n'est pas dans la grammaire du monde. Le monde n'est pas le passé qui cause des choses qui causent dans le futur. Le monde, c'est un ancien ensemble d'événements qui suivent des règles, je ne sais pas pourquoi, mais on voit ces règles, ces équations, qui sont symétriques, futur et passé.
Monsieur Andrély, merci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dans l'absolu, la notion de temps, on peut toujours poser la question, qu'est-ce qui se passait 10 minutes avant que ça commence? Si on part du principe qu'il y a un commencement du temps, on nous dit 14 milliards d'années depuis la singularité, etc. Donc ça postule l'idée qu'il y aura un commencement du temps, au moins dans le modèle standard des particules qu'on connaît, qui est à la mode aujourd'hui. Donc on peut toujours poser la question de savoir qu'est-ce qui se passait 10 minutes avant que ça commence. Et donc, on perçoit assez rapidement que c'est un peu absurde de postuler qu'il peut y avoir un commencement du temps, parce qu'on peut toujours poser la question de savoir qu'est-ce qui se passait 10 minutes avant que ça commence. Donc pour moi, l'idée que le temps ait un commencement est une idée parfaitement absurde. Et ce qui n'a pas de début n'a évidemment pas de fin. Et ce qui n'a ni début ni fin ne s'écoule pas. Et donc le temps n'existe pas dans l'absolu. Mais par contre, par les lois de la thermodynamique, par le calcul des durées sur des processus macroscopiques, on peut inventer le temps de toute pièce. C'est ma vision des choses. Qu'en pensez-vous?
Je pense que, si j'ai bien compris, je ne suis pas d'accord. Parce que, si je vais vous dire, vous êtes en train de dire que la possibilité qu'il n'y a pas du temps avant le Big Bang, ça me semble absurde. Et la raison est parce qu'on peut toujours se demander qu'est-ce qui s'est passé 10 minutes avant. Oui.
Mais pas le Big Bang, n'importe quelle calculation de démarrage du temps.
Oui.
Pour le Big Bang, 10 oui. Big Bang avant.
Oui, oui. Alors moi je ne suis pas d'accord avec cette logique parce qu'il y a plein de questions qu'on peut se poser qui n'ont pas de signification. Je peux me poser par exemple la question, ce zoo-là, combien il a gagné un euro l'année passée. Et la question n'est pas 0, 1 ou 3, c'est la question qui m'a posée. La notion d'euro et de gagne et d'impôt n'est pas adaptée pour un oiseau. L'exemple est un peu stupide, mais bon, je pourrais en trouver de mieux. Je peux demander quelle équipe de basket va gagner le championnat de foot. Mais non, c'est mal posé. C'est-à-dire, c'est pas parce que des questions nous semblent intuitivement bien posé que le son. C'est toute la leçon de Wittgenstein, je pense. Il y a plein de questions que nous posons que, si je cherche de les ouvrir, ne veut rien dire. Donc, c'est parfaitement possible que la question « qu'est-ce qui se passe avant le début du temps ?» c'est une question qui est née de quoi ? De l'intuition que nous avons que le temps est fait comme ça. Si le temps est fait comme ça, nécessairement, ça doit continuer. Mais le temps pourrait ne pas être fait comme ça. C'est comme la question, qu'est-ce qu'il y a plus au nord du pôle nord ? Rien. Mais alors la Terre s'arrête. Non, pas s'arrête, la Terre continue. C'est seulement qu'on a décrit la Terre avec nord-sud, et là il n'y a plus rien. Donc ça pourrait parfaitement être que la réponse, est-ce qu'il y a quelque chose avant le Big Bang ou pas, ne vient pas de la pensée pure, vient de l'expérience, de la science. Il faut regarder, il faut voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est ce que je pense. Je vois que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est ce que je pense.
Bonsoir. Alors, j'ai deux questions. Pensez-vous qu'il existe une limite à l'infiniment petit, d'abord ? Et la deuxième, alors pour définir le temps, ne faut-il pas d'abord se demander ce qu'est l'espace ? Est-ce que les scientifiques savent vraiment ce qu'est l'espace ?
Alors, la première question, donc, s'il y a une limite, elle est finalement petite. Moi, je pense que c'est une question qui rejoint la question précédente. C'est une question de physique, pas une question de a priori. Et il me semble que toute la physique moderne va dans la direction de nous dire qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas d'infini. Donc, la théorie dans laquelle je travaille, qui est la gravité quantique à boucle, rend ça très concret. Donc, l'espace entre ici et là, je peux l'utiliser en deux. Un 2, 2, 2, 2, mais pas à l'infini. À un certain moment, il y a la taille minimale au-dessus de laquelle, physiquement, on ne peut pas diviser les choses. Et notre intuition de l'espace continu, c'est rien d'autre que notre façon intuitive de concevoir beaucoup de choses petites. Non ? Et ça, on le sait bien, parce qu'on utilise les équations du continu pour décrire des choses. On utilise l'équation de l'hydrodynamique pour l'eau, mais l'eau c'est des molécules, c'est pas un continu. Donc moi je pense que l'évidence semble indiquer que l'espace, comme la matière, est discret, et il y a une taille minimale, qui est la taille de Planck. L'autre question c'est s'il faut définir l'espace pour comprendre le temps. Je pense qu'il y a eu dans l'histoire une évolution de la connaissance de l'espace qui est parallèle à celle du temps. C'est vraiment parallèle. Et l'histoire est presque la même parce que Newton nous a tous convaincus, pas seulement qu'il y a un temps universel qui passe, mais aussi qu'il y a un espace newtonien fixe dans lequel nous sommes immergés. Et il se trompe. Parce que c'est pas vrai, parce que l'espace dans lequel nous sommes immergés, ce n'est pas euclidéen, ce n'est pas fixe, c'est dynamique, c'est, il y a quelque chose, mais que le champ gravitationnel. Et comme il y a une notion du temps qui remonte à Aristote, qui est beaucoup plus faible, qui est seulement le comptage de choses qui changent, il y a de façon parallèle une notion d'espace qui ne demande pas cet espace newtonien, qui ne demande pas ce conteneur, qui ne demande pas ça, qui est tout simplement qui à côté de qui des choses. Donc pour Aristote, l'espace, c'est la relation de contiguïté qu'il y a entre les choses. Pour Aristote, l'espace, c'est le bord externe de toutes les choses qui sont autour de moi, le bord interne de toutes les choses qui sont autour de moi. Donc oui, je pense que comprendre le temps, ça nous demande de faire une claire discussion sur la nature de l'espace.
Et est-ce que tu peux
élargir ton propos à la question du temps, justement. Si on est obligé de. Si la physique contemporaine, notamment la gravité quantique à boucle, nous invite à abandonner l'idée d'une continuité de l'espace, en tout cas à un niveau très très fin, est-ce que.
Oui.
C'est quelque chose dont tu ne parles pas beaucoup dans ton livre, mais est-ce non. que ça nous oblige aussi à abandonner l'idée d'une continuité du temps? Est-ce que ce n'est pas une propriété du temps? Ça fait partie des propriétés du temps qu'il faut abandonner à un niveau très
fin. Oui, absolument. Dans la gravité quantique à boucle, on a un time limit de l'espace. Qui est la longueur de Planck, disons 33 cm, petite, mais on a aussi une taille minimale de chaque possible définition du temps, qui est disons 44 secondes, donc très très petit, encore une fois, mais on ne peut jamais parler d'une continuité temporelle. On peut seulement parler d'un processus peut être brisé un parti plus élémentaire, plus petit, mais pas arbitrairement petit. La plus petite possible a une durée. Ce que j'ai découvert en écrivant le livre, c'est une ancienne idée du Moyen-Âge européen, les atomes du temps, c'est des inconnus écrivains en Espagne, 13e siècle, qui parlent des atomes du temps. Donc c'est pas une idée originale. Qui existent, comme les atomes sont une idée ancienne.
Mais là, c'est tellement une propriété constitutive du temps, de la variable temporelle, qui est conçue comme une variable réelle, que là, il faut vraiment abandonner l'idée même de temps. Parce qu'à là, il faut utiliser un autre concept, parce que l'idée d'un temps discontinu, le compte de temps, me paraît complètement contradictoire avec la notion même de temps, telle que l'utilise.
Mais encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on. Comment voulons-nous utiliser ce mot? Bon, si on veut l'utiliser avec tout ce qu'on était, bien sûr, il n'y a rien dans la nature qui corresponde à ça. On peut continuer à l'utiliser, mais perd beaucoup, y compris la notion de continuité.
D'autres questions?
La description de plusieurs questions de la physique et des symétriques, et que d'un autre côté, vous avez évoqué, si j'ai bien compris, qu'il y avait des changements dans les choses. Et que d'un troisième côté, si on veut dire ça comme ça, il y avait une absence de repérage du passé et du futur. Comment les choses changent-elles? Enfin, comment vous représentez-vous l'articulation de ces trois choses, notamment, comment peut-on dire que les choses changent? S'il n'y a ni passé ni futur repérable, comment on raconte ça? Comment vous le racontez?
Je pense que la réponse est concrète dans les équations de la physique que je fais. Donc, on a des variables, la position de quelque chose, la position de l'aiguille de ma montre, je sais pas, l'auteur, la température, la couleur, et on a des équations qui nous disent comment ces variables sont liées les unes aux autres et les relations entre ces variables. Donc, si je connais ça et je connais ça, je peux prédire qu'à l'autre valeur de ça, il va correspondre à une autre valeur de ça. Et la théorie me permet de faire cette prédiction en avant ou en arrière sans aucune distinction. Donc, la distinction entre le passé et le futur n'est pas dans les équations, parce, dans le sens que les prédictions sont les mêmes. Il n'y a pas une prédiction valable pour le futur, une prédiction valable pour le passé. Et dans la théorie, il n'y a pas une variable temps particulière. Je peux prendre n'importe quelle variable de la théorie et voir comment les autres changent quand cette variable-là change. Donc je peux considérer n'importe quelle variable comme la variable temporelle par rapport auquel les autres changent. Donc je suis en train de parler des changements. Parce que je suis en train de parler de différentes valeurs que les variables peuvent acquérir. Si vous voulez, je suis en train de parler de temps, parce que les choses changent. Si par temps, on ne parle que du changement, je suis en train de dire comment les choses changent. Mais il n'y a pas de variable privilégiée par rapport à laquelle je décris le changement. Je ne fais pas la chose que Newton me demande de faire, qui est d'assumer qu'il y a cette variable, ce T qui passe par lui-même, et que Newton premier nous dit, on ne voit pas ce temps, on voit les choses qui changent. C'est une notion théorique, le temps de Newton. On la jette et on a que les choses qui changent. Donc ça, c'est l'absence du temps. Le manque d'orientation, c'est dans les propriétés que mes équations décrivent. Elles me décrivent des événements que, si je les fais marcher d'un côté ou de l'autre, sont tous les deux possibles ou tous les deux impossibles. Jamais des événements qui sont possibles dans une direction d'évolution et pas dans l'autre.
Pour radicaliser la question, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a des choses changent et on retrouve une sorte de temps aristotélicien ou quelque chose change. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller encore plus loin? Est-ce que les équations de la réalité quantique ne disent pas ça? C'est-à-dire que l'idée qu'il y a un changement sans choses qui changent, des variables qui changent, mais est-ce que c'est la variable sur la variable de quelque chose? Est-ce que l'idée même de quelque chose, justement, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le temps, la temporalité et de quelque chose, et qui est les deux étant émergents par rapport à une sorte de... C'est une question métaphysique assez radicale et profonde, mais je ne sais pas si ça...
Oui, mais là on part dans l'interprétation de la théorie. Moi-même, je n'ai pas des idées claires. Je suis fortement tenté d'aller dans la direction que tu dis, exactement. C'est-à-dire, j'étais à Vienne la semaine passée pour une discussion avec tout le groupe de mécanique quantique de Vienne. Et ils m'ont pressé beaucoup sur cette question, sur l'interprétation de la mécanique quantique relationnelle, qui est exactement les mêmes choses. Donc la question sur laquelle ils me pressaient est, est-ce que tu veux dire qu'il y a des choses avec des variables qui se comportent comme ça, ou qu'il y a des variables, point, et oublier les choses. Et moi j'ai beaucoup envie d'aller vers cette direction, qui finalement c'est, dans la philosophie on la retrouve, même de façon différente. Hume, qui a le contexte de l'empiricisme, mais ça nous dit la chose, c'est quelque chose que je construis à partir des observations. Moi, j'ai envie d'aller dans cette direction. Je trouve plein de gens que, quand on va dans cette direction, on se met à crier en disant on a plus une ontologie, on a plus une réalité, de quoi parle-t-on ?
L'ontologie de la variation. Est-ce qu'il y a encore, on peut prendre une ou deux questions?
La question est certainement un peu ingénue, mais le temps, il est ralenti quand on accélère, quand on va vite, et il ralentit aussi quand on est proche d'une masse.
Oui.
Est-ce que c'est lié, ces deux phénomènes? Du coup, parce qu'il y a l'accélération gravitationnelle aussi.
Est-ce qu'ils sont liés? C'est une bonne question. Oui, ils sont liés. C'est-à-dire, le premier a été découvert en Einstein en 1905 avec la réalité restreinte. Et il n'a rien à voir avec la vérité en soi. Et le deuxième, l'a découvert en Einstein 10 ans plus tard, en 1915, avec la réalité générale. Et donc, on peut dire, c'est l'autre phénomène, c'est la gravité, c'est pas la... Mais en réalité, une fois qu'on a compris la gravité, on se rend compte que la métrique de Minkowski de la réalité restreinte, c'est la même métrique que la métrique de la réalité générale. Donc, en tout cas, ce qui se passe, c'est que la gravité détermine ce champ gravitationnel, et comment on bouge et où on est par rapport à ce champ gravitationnel est ce qui détermine le temps. Donc, à la fin, ce ne sont pas deux phénomènes différents, c'est le même phénomène qui se... se manifeste soit selon où on est par rapport à la masse, soit à la vitesse à laquelle on va. Et pour la petite histoire, pour un satellite qui va autour de la Terre, les deux phénomènes ont le signe opposé. C'est-à-dire, si on plus allons, il y a plus de temps, mais si on va vite, on a moins de temps. Et les Russes ont mis leur GPS, les Russes ont un système GPS qui s'appelle GLaDOS, indépendant, parce qu'ils n'ont pas confiance des Américains, bien évidemment. Et ils ont mis les satellites à l'auteur où les deux phénomènes se fassent exactement. Donc les satellites russes sont dans une hauteur où il n'y a pas de différence de temps entre là et ici.
Une dernière question.
Bonsoir monsieur. Vous nous avez dit que le temps pouvait avoir un lien avec l'émotion. Et du coup, je me demandais si on pouvait penser que la responsabilité des hommes pouvait être incombée dans certains désordres du temps, parfois aussi, pas forcément, mais dans un désordre du temps. Est-ce que la responsabilité humaine peut être incombée?
Qu'est-ce que vous voulez dire par désordre du temps?
Le contraire de l'ordre. Ils ont un dysfonctionnement, quelque chose à.
Je ne sais pas répondre parce que la responsabilité, la notion de responsabilité humaine, c'est très complexe. C'est une notion sociale, la riche, qui a à voir avec la moralité. Donc,
les émotions sont plus ou moins contrôlées, même parfois manipulées.
Oui, mais la responsabilité, c'est une notion encore beaucoup plus complexe que les émotions. On parle d'émotions facilement pour des chats, on ne parle pas beaucoup de responsabilité pour un chat. La responsabilité, c'est une notion qui demande une structure sociale, qui met en place une moralité, toutes les choses qui nous font, évidemment, mais qui appartiennent encore aux couches encore plus complexes que les émotions de base que nous partageons avec les chats et puis même avec les oiseaux.
Donc voilà, je remercie Carlo pour cette intervention. C'est la dernière donc grande conférence de cette année, mais voilà, suivez le programme. On a une par mois à nouveau à partir du mois de septembre ou octobre, si je ne m'abuse. Merci beaucoup.